Mamzelle Bulle. Mamzelle Bulle sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, 18h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio et aujourd'hui, on parle cul avec Fabien Wellman. Il vient de publier chez Soleil L'herbier sauvage, un passionnant recueil de témoignages.
Quand j'ai eu l'idée de départ de me dire tiens, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller demander aux gens ce qu'ils pensent de la sexualité, de leur sexualité, de les faire parler? J'étais sûr de mon idée, mais pas sûr du tout de trouver des contributeurs et des contributrices. Parce que moi, j'étais un peu timide, donc j'imaginais que les gens le seraient aussi. J'ai même essayé de commencer avec des mails de manière anonyme avec des gens, etc. Et ça n'a pas bien marché. Les gens m'envoyaient des textes qui parlaient de leur sexualité, certes, mais c'était un peu convenu. C'était un peu, j'allais dire, comme quand on fait un selfie, on se met en valeur. Les gens qui m'envoyaient des récits sur leur sexualité par mail avaient tendance un peu à se regarder écrire, ce qui est normal pour se mettre en valeur d'une certaine façon. Donc j'ai fini par faire des entretiens en direct, tout en me disant les gens sont vraiment bien sympas de le faire. Et première surprise, il y en a beaucoup qui ont accepté, de plus en plus même. Donc en fait, ça me permet petit à petit de pouvoir même essayer de diversifier les profils de gens que je recherche. Et deuxième grande surprise, là où moi j'avais l'impression d'être une espèce de voleur d'histoire, et je disais aux gens, je suis tellement désolé, je vais faire un livre avec, donc vous me faites un cadeau incroyable, je ne pourrais jamais être à la hauteur de ce cadeau que vous me faites, à part vous offrir un repas, un pot, qu'importe. Et en fait, 90% des gens que je vois, la vraie récompense, c'est qu'ils ont pu parler librement de sexualité à un inconnu qui ne les juge pas, et qu'en fait, c'est la configuration idéale pour parler de cul, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se retrouvent en réalité dans une société où parler de sexualité est omniprésent, mais d'une seule et unique manière qui est quand même très liée à la performance, à une certaine idée de jouir sans entrave, qu'il faut bien jouir, les meilleures manières de jouir, les numéros de l'été sur la jouissance, enfin je caricature à peine. Et quand même, on voit aussi qu'il y a une chape de plomb sur l'idée qu'il y a quand même visiblement, tacitement, une limite à ne pas franchir quand même, sans quoi on devient une salope ou un porc. Et donc en fait, les gens sont tous plus ou moins, pas au même niveau, pas sur les mêmes sujets, dans une peur d'être jugés, et par leurs amis, et par leur famille, et beaucoup par leurs conjoints et leurs conjointes. Donc si on enlève tous ces cercles-là, il ne reste plus grand monde pour en parler à part son psy, et tout le monde ne fait pas de psychanalyse, et qui plus est, quand on parle au psy, c'est quand même avec une visée thérapeutique, donc on ne va pas juste dire « tiens, ça me fait plaisir de faire tel truc », et puis point barre, le psy va se faire un plaisir de décortiquer le truc en question, en disant « parlez-moi de votre mère », donc c'est quand même assez vite débordant. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai plaisir partagé, et de ma part, parce que j'adore qu'on me parle de sexualité, et de la part de mes interlocuteurs, qui ont enfin un espace de liberté qui va être d'une demi-heure si je fais la version des entretiens avec des cartes à tirer sur lesquelles il y a des questions. Et là, c'est une version, une sorte de speed dating qui va très vite, ou les entretiens plus longs de 3-4 heures, où souvent les gens à la fin me disent « mais merci, en fait, il y a des choses que j'avais encore jamais dites à personne ». Ce qui pour moi, alors là, c'est encore mieux. Je me dis « mais c'est fou, quoi, j'ai une chance dingue ». Et j'essaie de faire partager cette chance aux lecteurs en leur communiquant ce que j'espère être la substantifique moelle de ce qu'on m'a raconté.
Et avant de revenir sur le contenu même de ce témoignage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe justement pour amener les gens à se dévoiler ?
Alors le jeu de cartes, on l'avait fabriqué à l'occasion d'une exposition sur la revue numérique Professeur Cyclope à la ferme du Buisson, parce que les textes de l'herbier sauvage ont été prépubliés dans cette revue numérique dont j'étais un des cofondateurs. Et donc on cherchait une manière de rendre ça un peu ludique, un peu... Et en fait c'est très impalpable un entretien, donc comment on pouvait montrer ça dans une expo? Et puis finalement avec Philippe Dupuis qui organisait ça, on a eu cette idée de me mettre dans un coin, un peu comme une voyante, avec une petite table, une chaise vide en face de moi, et mes cartes. Et qui voulait pouvait me rejoindre et tirer trois cartes d'un jeu qu'on avait fabriqué pour l'occasion, que j'ai encore. Et les questions sont très diverses, mais toutes très cash. Les gens en tirent trois, ils répondent s'ils veulent. Ils peuvent changer la carte s'ils préfèrent répondre à une autre question. Ils peuvent ne répondre qu'à une des trois questions. Ils choisissent de répondre de manière crue ou allusive selon leur état d'esprit. Alors c'est vrai qu'il y a des fois eu des petites déceptions. Je pense à un homme qui vient, il tire la carte l'endroit le plus atypique dans lequel vous ayez fait l'amour. Il me répond juste une voiture, point barre. Bon, c'est clair qu'avec ça, je ne peux pas aller bien loin, je ne fais pas une histoire. Mais cela dit, avec une même question, classique ou pas, il y a des personnes qui vont vous sortir un roman et puis d'autres qui vont donner une seule réponse. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant justement dans leur diversité de réponses, avec ce mode-là, c'est que j'ai accès à beaucoup plus de profils différents que quand je fais un entretien de 3-4 heures avec une personne qui connaît le projet. Il m'est arrivé à la ferme du Buisson, par exemple, de voir des gens, un verre à la main le soir, un petit coup dans le nez qui me disent... Oui, non, mais moi, j'aurais bien participé, mais j'ai rien à raconter d'intéressant, j'ai pas de sexualité, comme un défi, quoi. Et je leur disais, mais qui vous dit que je ne parle que d'expériences sexuelles vécues ? Ça peut être des fantasmes, ça peut être l'abstinence, ça peut être le dégoût de la sexualité. Le sujet de l'herbier sauvage, c'est pas une sexualité débordante. Le sujet de l'herbier sauvage, c'est la sexualité, sous toutes ses facettes, et je cherche des gens qui ont juste la capacité de m'en parler sincèrement. Et je comprends que ça puisse être dur. Il s'avère qu'en général, ça se passe bien. Parce que je crois qu'ils voient que je suis bienveillant, que je suis curieux, que ça m'intéresse et que je ne les juge pas. Mais je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire, bien entendu. Mais une fois ça posé, moi, quelqu'un qui vient me voir en disant « j'ai pas de sexualité, et voilà pourquoi c'est un problème » ou « voilà pourquoi ça n'est pas un problème », ou qui me dit « moi, en fait, c'est que la masturbation » ou qui me dit « moi, en fait, c'est surtout les fantasmes, mais je pratique peu », c'est un sujet, ça m'intéresse. Parce que justement, comment ça se passe quand on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas pratiquer? Comment on le vit? Et justement, c'est peut-être là qu'il y a le plus de travail à faire dans une société qui met beaucoup plus en avant la surenchère de nombre d'expériences, etc. Bon, dans les faits, il y a quand même beaucoup d'expériences très exubérantes dans l'herbier sauvage, ce premier volume. Parce que c'est vrai aussi que je suis allé chercher des contributeurs dans des clubs échangistes, dans des milieux plus libertins, des choses comme ça. Mais parce que je voulais aussi avoir le point de vue de gens qui pratiquent ça d'une manière... autre. Et quand j'entendais, c'est pas dans ce premier livre, mais quand j'entendais une femme dans un club libertin qui disait « Non, mais moi je fais ça, mais j'aime bien le kayak aussi », c'était super instructif parce qu'on disait « Ah oui, donc elle met la sexualité au même niveau qu'une pratique sportive ». C'est un point de vue, c'est pas celui de tous les libertins. Donc de toute façon, c'est sans fin cette recherche. Chaque fois que quelqu'un arrive, j'ai une nouvelle personne, une nouvelle façon d'exprimer les choses et j'essaie de respecter en grande partie la manière dont les gens me parlent. Les expressions, la façon d'être, la façon de se comporter face à moi. Avec une difficulté, c'est que bon, c'est quand même moi qui réécris derrière, c'est sous forme de monologue ce qui m'a été dit. Donc j'ai mes limites d'écrivain, je n'ai pas un style qui est celui d'un très très grand écrivain, donc j'essaie de faire au mieux avec ça. Autre difficulté qui me retraverse l'esprit, je cherche la plus grande diversité de contributeurs possible, mais j'ai commencé par des amis d'amis, des cercles concentriques autour de mon milieu, donc il y a quand même une forme d'homogénéité qui est des gens plutôt blancs, plutôt entre 30 et 40 ans, plutôt des gens qui lisent des livres. Et j'essaie de plus en plus d'ouvrir ce panel à d'autres types de personnes, des gens qui liraient pas du tout, des gens qui seraient dans l'aristocratie la plus huppée de France, des personnes âgées, des personnes jeunes, mais jamais en dessous de 18 ans, soit en passant, je me suis quand même fixé cette limite.
Mais même s'il y a cette unité quelque part dans les profils, les expériences sont très diverses dans ce livre, est-ce que comme ça tu pourrais nous parler de quelques-unes des histoires, en tout cas celles soit qui t'ont le plus touché ou qui te viennent en tête juste sur le moment?
Ça va aller de un long monologue d'un homme qui évoque sa perplexité sur l'orgasme féminin et il essaie de comprendre comment fonctionne l'orgasme féminin. Est-ce qu'il est vraiment, comme le présume la mythologie et Tirésias, est-ce qu'il est vraiment beaucoup mieux que l'orgasme masculin? Et si c'est le cas, c'est une injustice. Et il essaie de comprendre s'il n'y a pas des points communs entre l'orgasme masculin et féminin. Ce type-là m'a bien fait rire parce qu'en fait, il me ressemble beaucoup dans sa façon de conceptualiser tout et tout. Donc on était en terrain très... Donc il invente toute une théorie très scientifique là-dessus, mais qui finit par devenir plus poétique qu'autre chose. Je pense à un autre récit qui m'a beaucoup touché. C'était un homme de 70 ans qui était en chimio et qui découvre quelque chose sur son rapport au désir parce que la chimio affecte sa libido. Ça pourrait être glauque, ça l'est pas du tout. C'est juste très touchant et ça a été une rencontre très, très belle. En fait, la plupart des rencontres que j'ai pu faire, avant tout, humainement, ça a été assez génial. Et si en plus je peux en tirer un bon récit, c'est la cerise sur le gâteau, quoi.
Et tu le disais, ce sont des inconnus. Dans le livre, les noms ont été changés, les lieux de rencontre. Comment est-ce que finalement, de ces témoignages, tu en as fait ce livre, L'herbier sauvage ?
Alors oui, effectivement, c'est très très important, je dois respecter l'anonymat des gens. C'est aussi pour ça que quand je réécris le texte, il m'arrive de changer un peu la façon de parler des gens. Pas qu'on les reconnaisse complètement, parce qu'il y a des expressions qui peut-être seront tellement typiques de la personne et la personne ne veut pas qu'on la reconnaisse que je suis obligé de faire un peu attention. En moyenne, je préviens les gens que je vais réécrire leur texte, que je vais parfois un peu les modifier en partie pour les rendre anonymes. Donc je change assez peu l'âge, parce que je pense que l'âge est quand même un curseur important d'une façon de voir la sexualité. On ne parle pas de cul de la même manière à 20 ans qu'à 40. Mais quelqu'un qui a 40 ans, je dirais qu'il a parfois 38. Puis parfois, sur un autre récit, je dirais qu'il a 42, 43. Je brouille un peu les pistes. Je change souvent le lieu de l'entretien. C'est très rarement là où j'ai décrit que ça s'était passé. Des fois, c'est un autre entretien qui a eu lieu dans le bar que j'évoque. Je change les noms, bien entendu. Et je change la description physique de la personne la plupart du temps. Il y a des gens qui me demandent à ce que ça leur ressemble, c'est un choix. Et surtout, je ne dis jamais à qui que ce soit à ma femme, à mon éditrice, à n'importe qui j'ai rencontré. Une personne qui vient me voir peut bien entendu dire autour d'elle « J'ai vu Velleman, j'ai fait l'herbier sauvage ». Mais c'est en connaissance de cause, parce qu'il faut savoir dans ces cas-là que les amis, les proches vont forcément lire le livre et se demander pour chacune des histoires laquelle est celle de Michel.
Le risque de prévenir les gens de l'entourage, c'est que les copains puissent croire qu'on a fait une croisière libertine, par exemple.
Oui, c'est un des récits les plus spectaculaires. Ou en plus, je décris dans ce récit comment j'en suis arrivé à me retrouver le seul habillé dans une soirée échangiste, dans un coin, dans le fumoir, avec mon petit calepin, à poser des questions aux gens quand ils revenaient d'avoir baisé comme des fous. Et qu'on m'a raconté cette histoire hallucinante de croisière libertine où le paquebot est entièrement réservé par des libertins du monde entier. C'est un peu hallucinant, c'est un peu un contre-exemple de ce que j'essaie de faire dans le reste du livre, où j'essaie de trouver des récits qui puissent être très ténus. Parfois, il se passe juste... C'est peut-être une pensée qui nous traverse l'esprit à un instant donné, ça peut être des choses très très subtiles. Mais de temps en temps, j'ai pas pu quand même m'empêcher de citer quelques-unes des histoires les plus extraordinaires que j'ai entendues, déjà parce qu'elles m'avaient frappé. Et en plus, parce qu'elles avaient quelque chose de touchant. Cette personne, cette femme qui me disait qu'avec son mari, elle participait à ces croisières libertines, elle avait une façon d'en parler, qui était intéressante, qui était drôle, qui était touchante aussi. Et finalement, elle a une réflexion sur l'amitié, à la fin, que moi j'ai adoré, parce qu'elle disait, bah, en fait, c'est des vacances, comme les autres, d'ailleurs, c'est le nom de l'histoire. Donc, on peut se faire des amis aussi, dans une croisière libertine. Et cette espèce de moment où il y a un contre-pied par rapport à l'image qu'on peut s'en faire, outre le fait que l'histoire est hallucinante, Elle est touchante et on revient dans l'humain. Et de toute façon, c'est le point commun de tous mes récits, je crois, c'est qu'on parle de l'humain. Le sexe est une très très bonne manière de faire parler les gens d'eux. Parce que déjà, ils n'ont pas l'occasion de parler de sexe souvent, donc ils saisissent l'occasion. Et en plus, en réalité, il se passe tellement de choses qui ont trait à la société, à la psychologie, à l'humain, dans chacun de ces récits, que finalement, c'est par ce petit bout de la lorgnette, on accède à peu près à tout le reste de la société.
Et tu le disais, toi, il y avait le grand plaisir de faire ces entretiens. Pour les personnes qui parlaient, il y avait le plaisir de parler justement de quelque chose dont ils n'avaient pas forcément l'habitude, en tout cas avec liberté. Et pour le lecteur ?
Avant même d'avoir une visée sur ce que ça pouvait apporter de bon, ou on va dire in fine au lecteur, je reconnais que j'avais cette envie de trier tout ce qui m'était donné pour n'en garder que la substantifique moelle et donner ça au lecteur en me disant « Regardez, moi j'ai fait les entretiens, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parler avec ces gens. Sur 4 heures d'entretien, il y a peut-être, je peux condenser 20 minutes qui vont vraiment vous intéresser. Donc je fais ce travail-là. Et pour vous offrir ce qui est un peu, moi, mon fantasme dans cette histoire, à savoir être une petite souris qui verrait enfin... qui entendraient enfin les choses que d'habitude on nous cache. Ado, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais que disent les filles entre elles quand elles sont dans leur coin et qu'elles nous regardent en riant, quoi. Ben là, finalement, j'ai ce rôle. Je peux enfin demander à des hommes, des femmes, mais alors expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe quand la porte se ferme, quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes que entre vous, quand il se passe ceci. Ce que j'espère, c'est déjà que les lecteurs vont se régaler d'avoir plein de choses très différentes et qu'à chaque récit, puissent se demander vers quoi ça va aller. Et peut-être qu'effectivement, à la fin, comme moi, je l'ai vécu, je crois, au travers de ce projet, ils auront une vision beaucoup plus large de toutes les facettes de la sexualité. Et encore, je suis très loin d'avoir fait le tour. Et à partir de là, on commence à remettre les choses en perspective. On se dit, mais attends, oula, moi j'avais cette vision-là, qui est vraiment une toute petite version de ce que peut être la sexualité. Or, il y a je ne sais pas combien de fois où des gens m'ont dit des choses qui étaient contraires à mon intuition. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas penser ça. Et à chaque fois que je crois avoir compris un truc, quelqu'un va me dire l'inverse. Non pas pour me dire j'ai tort, mais pour me dire, attention, ce que tu crois est parfois statistique. Oui, peut-être que 70% des hommes pensent ceci, 70% des femmes pensent cela. Mais dans les 30% qui restent, ça peut être complètement l'inverse. Et donc cette idée qu'à la fois on est tous différents, à la fois il y a quand même une forme d'universalité, ou inversement, qu'à la fois c'est universel, mais c'est aussi complètement différent d'une personne à une autre, ça ne peut en réalité se ressentir que dans la multiplicité des récits. Et il y a des fois on se reconnaît, on se dit c'est exactement ce que je pense, il y a des fois on se dit c'est pas moi du tout, mais je ne savais pas qu'on pouvait le voir comme ça. Ça serait vraiment ma grande fierté si à la fin on pouvait ressentir ça.
Et pour revenir aux dessins de Chloé qui sont vraiment très réussis dans cet album, comment est-ce que ça s'est passé? C'est que tu lui as filé tous les textes et après elle a choisi elle d'illustrer ce qui l'inspirait, ce qu'elle voulait faire. Comment est-ce que vous avez bossé?
Déjà, j'avais dès qu'on s'est dit avec l'éditrice Clotilde Vu de chez Soleil qu'on allait avoir un seul illustrateur par livre, parce que dans Professeur Cyclope, il y a eu plusieurs illustrateurs. Et on ne voulait pas garder cette espèce de multiplicité parce que ça aurait pu servir le côté chaque sexualité est différente, mais ça aurait pu aussi donner un côté trop foutraque au bouquin. Donc on s'est dit un seul illustrateur et même idéalement plutôt commencer par une illustratrice. Et quand on a dit ça, tous les deux, on a dit Chloé Cruchaudet parce qu'il s'avère qu'elle avait déjà illustré des histoires dans Professeur Cyclope et elle a fait un travail super. C'est à la fois très incarné, elle s'inspire un peu du peintre Lucian Freud pour ce côté des chairs, des vraies chairs humaines et pas des sortes de poupées Barbie ou de Ken qui seraient toujours faits magnifiquement mais de manière super culpabilisante pour nous. Et en même temps, c'est très incarné mais très léger. C'est un équilibre assez fou. Elle a utilisé des aquarelles qui lui permettent de jouer sur les accidents que l'aquarelle permet. Comme moi, j'ai joué sur les accidents qui sont la rencontre inattendue avec une personne qui me dit quelque chose que j'attends pas. Je lui ai donné les 200 récits qu'il y avait à l'époque, parce que je crois que maintenant, je suis plutôt vers 300. Elle a tout lu, il y en a qu'elle connaissait déjà, et elle a choisi une quarantaine de textes qu'elle aimait beaucoup. Elle a fait des essais, des croquis. On a ramené ça à 30 illustrations, dont on était tous contents. Et une fois qu'on a eu choisi ces 30-là, moi je ne voulais pas dépasser le chiffre de 30, pour que beaucoup de récits soient sans illustration aussi, pour laisser aussi l'imaginaire du lecteur jouer. J'ai choisi les 40 autres, selon d'autres critères, qui étaient plus d'essayer d'avoir une diversité dans ce panel. Je ne suis pas sociologue, ce n'est pas une vraie enquête, mais ça m'aurait fait chier qu'il n'y ait pas, par exemple, sur 70 récits, au moins 7 ou 8 récits homosexuels, juste parce que c'est à peu près la proportion de la société française qui sera homosexuelle. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de récits de personnes âgées, de jeunes, de gens quand même de milieux socioculturels un peu différents. Il n'y a pas encore la diversité que je voudrais réellement, et je fais un appel à témoignages de gens qui sont issus du milieu ouvrier, de l'immigration, ou alors des gens très 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 huppés qui sont pétés de thunes, des gens âgés. Plus j'ai de diversité, mieux je me porte. Ne vous souciez pas de savoir si vous avez une sexualité intéressante. On s'en fout. C'est à moi d'aller chercher le truc intéressant.
Merci beaucoup.
Merci.
L'appel est passé, à vous de vous lancer, à vous de vous livrer, si le cœur vous en dit. L'herbier sauvage, c'est de Fabien Vellman et Chloé Cruchaudet, et c'est publié chez Soleil. Mamzelle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h sur Radio Campus Paris, pour un autre entretien avec un auteur de bande dessinée. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.